RMC, 13h-14h, Motors.
Bonjour à tous, vous êtes sur RMC, vous êtes au bon endroit. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, 14 juillet, jour de fête nationale. C'est la fête en France, ce le sera peut-être également en Angleterre. Aujourd'hui, 150 000 personnes sont attendues à Silverstone pour suivre le Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde de Formule 1. 150 000 personnes qui espèrent voir Lewis Hamilton triompher. Bienvenue dans Motors. Des tribunes repeintes aux couleurs de l'Union Jack, un tracé magique parfumé aux oignons grillés, aux relents de bière tiède et de fumier champêtre. Bref, un rendez-vous mythique et événement mythique, casting XXL dans Motors, avec en studio avec moi Adrien Tambay, la caution sportive et la caution pilote de l'émission. Salut Adrien.
Salut à tous.
Jean-Luc Roy, la caution historique, la bible des sports méca et la caution vestimentaire également de Motors. Salut Jean-Luc.
Il nous a préparé cette introduction. Salut Christophe. Welcome aboard, comme on dit.
Merci
du côté
beaucoup.
De Silverstone.
Et Luc Avinois, justement, notre envoyé spécial à Silverstone, notre commentateur et la caution météo également sur les Grands Prix. Salut Lucas.
Salut Christophe, bonjour à tous.
De là ce qu'il traite de grenouille, il n'y a pas loin. De froggies, tu sais. En Grande-Bretagne, les Français, c'est des froggies.
Tout va bien, messieurs, vous êtes chaud pour nous parler de cette dixième manche.
Donc, plus chaud, c'est pas possible.
Donc, de Formule 1, on va se régaler.
Oui. Bah, écoute, c'est ce qu'on espère en tout cas à chaque fois. Oui. Non, mais tu l'as évoqué dans la présentation tout à l'heure. Effectivement, la grille de départ est détonnante. Alors, tu vas me dire, je dis ça à chaque fois, mais là, Hamilton, pour 6 millièmes, hein, seulement 6 petits millièmes, n'est pas parvenu à décrocher cette pole. Donc, j'imagine qu'il a, je sais pas, comme on dit par là-bas, on va dire les boules, qu'il est un peu énervé de ne pas être parvenu devant son public à décrocher cette pole position. Et puis Bottas, il doit exister comme ça. Puis tu parlais de deuxième ligne, on va pas tout mettre d'un coup.
On va la détailler, voilà. D'ailleurs, Jean-Luc. Cette grille de départ, c'est le premier talk de Motors.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Alors on va revenir effectivement sur la séance qualificative qui a eu lieu hier. C'est la dixième manche du championnat du monde de Formule 1. Les Mercedes étaient passées un petit peu au travers à Spielberg en Autriche il y a 15 jours. Elles sont de retour aux affaires. Et effectivement, c'est Valtteri Bottas pour 6 petits millièmes, soit 40 centimètres. J'ai bien dit 40 centimètres qui devance.
Ça fait parfois la différence, mais là ça l'a fait.
Le Britannique.
Bon, on est bien parti là, je crois. Écoute, oui, bah de toute façon, il faut bien que t'en aies un qui devance l'autre d'une manière ou d'une autre. Tiens, je vais rappeler une petite anecdote. Tu me parlais d'historique. Je vais faire office de monument dans pas longtemps, mais on ne me visite pas, je te rassure. À Jerez de la Frontera, le fameux Grand Prix qui avait décidé du titre mondial 97, il y avait 3 pilotes dans le même millième. Est-ce que ça te paraît possible, ça? Alors, je peux rappeler les noms. Il y avait un certain Jacques Villeneuve qui était en bagarre pour le titre. Il y avait un certain Michael Schumacher et puis un certain Heinz Harald Frentzen. Selon les mathématiciens, c'est pire que les astres dans l'univers. Il y a une chance sur 3 milliardièmes de milliards de milliards, donc c'est quasiment pas possible. Donc 40 centimètres, ça fait la différence et ça fait la pole de Bottas. J'y reviens.
Adrien, 10e pole position de la carrière du Finlandais, la 4e cette saison, donc il devance un homme que tout le monde attend à Silverstone, c'est Lewis Hamilton. C'est vraiment une performance majuscule, encore une fois, de Bottas.
Oui, effectivement, hein, Lewis Hamilton, c'était 4 poles d'affilée à Silverstone jusqu'à maintenant. Il a terminé l'hégémonie de son coéquipier pour, une fois de plus, 6 millièmes. Ça montre que c'est du détail et qu'il a fait la différence sur très peu de choses. Valtteri Bottas, cette année, c'est le plus fort en qualification. Il faut le dire, hein, 4 pôles, c'est mieux que tout le monde. Après, il faut réussir à convertir ça en course, mais il prouve qu'il est du niveau, en tout cas, par moment. S'il arrive à trouver cette constance et être la majorité du temps comme ça devant son coéquipier en qualif, peut-être que le championnat peut être relancé à un moment donné. Il faut aussi que la chance soit un peu avec lui, parce qu'il y a déjà 31 points d'avance pour Lewis Hamilton.
Lucas, tu as suivi ses qualifications hier, tu suis le championnat du monde de Formule 1 sur RMC depuis de nombreuses semaines. Comment tu juges la performance du Finlandais? On sent clairement, enfin c'est mon avis, qu'il a monté le curseur cette saison quand même.
Oui, non, mais comme Adrien l'a dit, hein, de toute façon, à partir du moment où vous êtes le pilote qui a signé le plus de pole position depuis le début de saison et que vous êtes en plus, vous partagez votre garage avec Lewis Hamilton, c'est un exploit majuscule, il faut le dire. Maintenant, attention, pour Valtteri Bottas, il a déjà été en pole 3 fois cette saison, à 3 autres reprises, et en Chine et en Espagne, ça n'avait pas suffi puisqu'il avait perdu. Lewis Hamilton l'avait dépassé dès le départ. À Bakou, il avait réussi à transformer sa pole position en victoire. Ici, c'est un pilote sur deux qui s'impose depuis la pole position, donc c'est vraiment que la moitié du travail qui a été fait, surtout qu'on attend peut-être un petit peu de pluie tout à l'heure, donc Valtteri Bottas va devoir être très concentré et très méfiant. On sait que Lewis Hamilton, devant son public, ne va rien lâcher.
On va l'écouter justement, Valtteri Bottas qui revient sur sa pole position. Valtteri Bottas qui était à ton micro hier, Lucas, donc juste après sa quatrième pole signée cette saison.
Vous ne savez jamais vraiment si vous êtes en pole avant que tout le monde ait passé la ligne. Cette piste est si difficile qu'il est compliqué de ne pas faire d'erreur. Il y a tellement de virages et je pense que personne n'a effectué le tour parfait, moi y compris, mais finalement c'était suffisant avec une toute petite marge. C'est un sentiment génial d'être en pole, surtout ici. J'essaye de ne pas trop me focaliser sur les supporters de Lewis, mais plutôt sur ceux qui me soutiennent. Je leur suis d'ailleurs très reconnaissant, ça me motive beaucoup, surtout quand je vois à quel point les fans sont nombreux pour Lewis.
Bottas qui parle de ces virages très piégeux. C'est un circuit mythique, Jean-Luc. Tu as commencé à en parler avec JC Drouet là, dans les grandes gueules, avec les paris. Tu le vois comment ce départ?
Écoute, ils le disent tous, et c'est vrai que malheureusement, je dirais, sauf, et on va y revenir, en Autriche, ça se joue beaucoup au départ, effectivement, puisque je rappelle qu'on s'est qualifié en pneumatique médium pour ce qui concerne les pilotes Mercedes, donc la première ligne, et pour ce qui concerne les pilotes Red Bull, qui seront donc pour Verstappen à côté de Charles Leclerc, et derrière,
Leclerc
respectivement, voilà, qui seront en pneumatique.
T'as vu, j'ai bossé quand même.
Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, si tu veux, je pense que si... le départ effectivement permet à Charles, et c'est déjà arrivé dans le passé, ou à ceux qui sont en soft, hein, de réaliser un meilleur départ, surtout si la température, et Lucas vient de nous le dire, n'est pas très élevée. Je parle pas de pluie, hein, parce que là ça vient brouiller, c'est le cas de le dire, la piste, et là toutes les stratégies sont remises en cause naturellement, et tout dépend du degré d'humidité qu'il y aurait sur la piste, mais en conditions, on va dire, normales et constantes, eh bien les pneumatiques soft, c'est quand même un avantage au moment du départ. Maintenant, on se lance toujours à Silverstone dans des courbes très rapides, les pneumatiques, malgré les efforts des pilotes pendant le tour de formation, ne sont pas totalement en température. Donc je le répète, il y a une carte à jouer pour Charles qui est du bon côté de la piste avec sa troisième position. L'objectif, c'est au moins de s'immiscer entre les deux Mercedes. Et après, c'est ouvert.
Adrien, l'asphalte a été refait pour améliorer la piste à Silverstone. Cette nouvelle surface est glissante, ça peut changer la donne, ça?
Oui, en fait, à Silverstone, dans les années précédentes, on avait déjà refait la surface du circuit, mais ça avait été quelque part mal fait. Beaucoup de bosses dans les enchaînements de Becketts et Magotts. C'était assez compliqué pour tous les pilotes. Donc, unanimement, en Formule 1, on a demandé que le tarmac soit refait pour cette année. Et ça a été fait correctement, mais on a perdu un peu d'adhérence par rapport aux matériaux utilisés l'année dernière. Cependant, on a quand même éclaté le chrono de l'année dernière. Donc, on a quand même réussi à aller plus vite. Et pour en revenir à Charles Leclerc, à ce départ très important, comme le disait Jean-Luc, il va falloir pousser très fort pour lui dans les premiers tours, au risque de ne plus avoir l'opportunité de passer devant les Mercedes sur la piste, parce qu'il a des pneumatiques qui sont plus performants, mais aussi un peu plus sujets à la dégradation.
On parlera un petit peu plus tard des Mercedes, des Ferrari pardon, et des Red Bull, mais est-ce qu'à la régulière, Mercedes peut être battue aujourd'hui ?
Oui, je pense que à la régulière, ils peuvent être battus, mais je pense plus à la Red Bull que à la Ferrari, honnêtement. Quand je vois la course autrichienne de Max Verstappen et quand je vois la performance d'hier, il échoue seulement à 1/8 de la pole position. C'est assez impressionnant sur un circuit où il y a quand même des longues lignes droites qui est assez rapide, où il y a quand même un déficit pour le moteur Honda par rapport au moteur Ferrari et au moteur Mercedes. Je trouve que c'est très impressionnant de la part des Red Bull et qu'on a une vraie montée en puissance là depuis deux Grands Prix de l'écurie autrichienne.
C'est donc Valtteri Bottas qui s'élancera à 15h10 en pole position, juste devant Lewis Hamilton, son coéquipier, pour 6 petits millièmes, on l'a dit. Lucas, tu es sur place, j'imagine que Lewis Hamilton devait être extrêmement contrarié, hein, de cette deuxième place. Parle-nous un petit peu du Britannique, il a une histoire particulière quand même avec Silverstone.
Ouais, c'est une histoire particulière avec Silverstone et avec le public anglais, ouais. Puisque c'est vrai qu'à Silverstone, il s'est imposé à 5 reprises. S'il s'impose cet après-midi, il sera le seul à avoir remporté autant de victoires sur ce tracé avec 6 triomphes. Mais c'est vrai qu'il est pas forcément très apprécié en Angleterre, très apprécié des fans de sport automobile, mais moins du grand public qui lui reproche ses frasques, qui lui reproche son comportement, notamment sur les réseaux sociaux, qui lui reproche aussi le fait d'avoir quitté l'Angleterre.
Mais il est vraiment mal aimé là-bas, Lucas?
Oui, bah alors côté les fans de sport automobile qui l'adorent, mais si vous retournez par exemple dans la ville qui l'a vu naître, à savoir Stevenage, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui dit du bien de Lewis Hamilton parce qu'il n'y retourne pas, parce qu'il a qualifié cette ville de taudis l'année dernière lors d'une remise de trophée. Du coup, oui, Jenson Button est adoré, est adulé en Angleterre, Nigel Mansell est adulé aussi, mais c'est beaucoup moins le cas de Lewis Hamilton. Et puis il faut expliquer aussi que en Angleterre les grands prix sont maintenant diffusés sur des chaînes privées, alors qu'à l'époque c'était diffusé sur la BBC et donc une chaîne publique, et tout le monde avait accès aux exploits de Button ou de Mansell dans les années 90, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et le grand public anglais a plus souvent écho des phrases que de Lewis Hamilton via les tabloïds plutôt que de ses exploits sur la piste via la télévision payante.
Lucas, tu parlais de Nigel Mansell, je crois que tu as assisté à une jolie anecdote en conférence de presse sur une histoire de moustache.
Ouais, de moustache. Faut-il la raconter en entier, cette anecdote? Oui, en effet. On a demandé à Lewis Hamilton pourquoi il était moins aimé que Nigel Mansell. Il a répondu que c'était peut-être la moustache. Lando Norris est entré dans la danse en disant que lui non plus n'était pas capable d'avoir une moustache comme Nigel Mansell. Et puis, bien évidemment, Daniel Ricciardo y a mis son grain de sel en demandant si Lando Norris, le jeune Lando Norris, avait même des poils pubiens, ce qui a déclenché un fou rire du côté du jeune pilote britannique intenable, qui a même dû enlever son micro puisqu'il n'arrêtait pas de rigoler. Il était en train de pourrir complètement la conférence de presse. Donc c'était une scène très, très, très sympathique. Mais quand il y a Daniel Ricciardo en conférence de presse, il se passe toujours quelque chose.
Tout peut arriver.
Exactement. Lewis Hamilton, donc, qui s'élancera une nouvelle fois derrière Valtteri Bottas. Lewis Hamilton qui va devoir trouver des solutions. On l'écoute.
Je dois me pencher sur la stratégie, je ne sais pas encore ce que nous ferons. Ce n'est pas si facile de dépasser sur cette piste. Il va falloir trouver des solutions, mais il est rapide à peu près à tous les endroits du circuit. Je vais devoir améliorer mon rythme, faire attention à mes pneus et bien les utiliser pour lui mettre la pression et essayer quelque chose de nouveau. Cela va être une course difficile, je vais essayer de trouver un moyen de l'emporter.
Les meilleurs après les Mercedes, ce sont souvent les Ferrari. C'est Charles Leclerc qui s'élancera en troisième position depuis la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le pilote monégasque tout à l'heure?
Déjà, une stratégie qui, pour une fois, soit la bonne pour Ferrari. Parce qu'on a vu, effectivement, lors du dernier Grand Prix en Autriche, avec cette passe d'armes finale, on va sûrement en parler à un moment ou à un autre, entre lui et Verstappen, que si on n'avait pas bêtement, j'ose le dire une nouvelle fois chez Ferrari, calé la stratégie sur celle de Bottas, qui s'était arrêtée, mais qui était manifestement pas dangereux. Je rappelle qu'on était pareil dans une configuration de pneumatiques initiaux qui était différente. C'est-à-dire que quand Bottas s'est arrêté, on a voulu couvrir la stratégie avec Ferrari et avec le leader Charles Leclerc, ce qui était manifestement une ânerie. Et on l'a dit en direct d'ailleurs à l'époque, parce que les performances de Leclerc étaient encore excellentes, il fallait le maintenir sur la piste tant qu'il pouvait et tant qu'il se maintenait à ce niveau de perf. Donc bref, si chez Ferrari on ne commet pas d'erreur de stratégie, et si, ça fait beaucoup de si, mais le départ de Charles est suffisamment bon pour lui permettre de devancer au moins une des Mercedes, que je disais, c'est-à-dire de se glisser en profitant de l'adhérence du bon côté entre Bottas et Hamilton, ben ma foi, tout est permis. Je pense que même si Charles est un petit peu en retrait, je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer, sait-on jamais.
On va l'écouter justement, Charles Leclerc. Il se dit prêt, lui, à tout tenter.
Personnellement, ça va être compliqué s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au départ pour essayer de doubler les Mercedes. Donc voilà, on va tenter le tout pour le tout. Moi, je vais essayer d'être un peu plus agressif parce que maintenant, je sais que je peux être un petit peu plus agressif en course. Essayer de gagner des positions au départ. Si c'est pas le cas, essayer de garder les pneus le plus longtemps possible. Mais voilà, je pense qu'entre les softs et les médiums, en tout cas de ce qu'on a vu hier, il n'y a pas une énorme différence en termes de dégradation. Il y a peut-être juste un petit avantage au premier tour. Donc voilà, j'espère qu'on pourra l'utiliser et gagner les positions et ensuite les garder.
Adrien, est-ce qu'il va prendre des risques au départ, Charles Leclerc?
Je crois qu'on le disait tout à l'heure, et puis il le sait aussi, il ne va pas avoir 36 tours pour aller dépasser Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avec ce petit avantage qu'il a avec les pneumatiques soft. Il va avoir ce surplus de grip seulement pendant deux tours. Donc en fait, c'est vraiment au départ qu'il doit bien utiliser ce grip en plus, peut-être essayer de prendre un meilleur départ. Il est du bon côté de la piste, on sait qu'à l'intérieur quand même c'est pas l'endroit le meilleur.
Il sera à côté aussi de Max Verstappen.
Et il sera à côté de
ça peut être tendu cette affaire.
Ouais, qui lui sera à l'intérieur aussi sur la partie la plus sale du circuit, et il a une Ferrari et c'est quand même le meilleur moteur du plateau aujourd'hui. On les a vus assez à l'aise en Autriche en ligne droite. On les a vus très rapides ici aussi. Donc voilà, dans un premier tour, peut-être dans la ligne droite entre l'enchaînement Beckett, Smagotz et Sto, aller prendre une aspiration et voilà, essayer d'aller au moins s'intercaler entre les deux Mercedes pour semer la zizanie et faire que les stratégies soient intéressantes et qu'on ait du suspense pendant la course.
Charles Leclerc a battu pour la troisième fois consécutive Sébastien Vettel en qualif. Lucas, on sent l'Allemand un petit peu résigné et plus généralement, j'ai même envie de dire la Scuderia Ferrari.
Ouais, alors je sais pas trop comment me positionner face à Vettel. J'ai l'impression qu'il est complètement désengagé, qu'il n'est plus très motivé. C'est vraiment assez étonnant le comportement du pilote allemand, presque comme s'il n'était plus vraiment concerné, qu'il avait des envies d'ailleurs. Il y a de plus en plus de rumeurs hein, d'ailleurs qui arrivent dans le paddock, mais Ferrari a confirmé son envie de continuer avec Sébastien Vettel. Mais est-ce que lui le souhaite vraiment? On a l'impression aussi qu'il se rend peut-être compte qu'il n'y arrivera pas avec la Ferrari, comme Fernando Alonso, lui, n'y est pas arrivé non plus à faire gagner la Scuderia Ferrari. Et dès jeudi, une écurie qui a participé à tous les championnats du monde depuis leur création, qui a quasiment pas raté de Grand Prix, et je parle sous le contrôle de Jean-Luc, et qui vous dit, en arrivant à Silverstone, on n'a pas d'ambition, ça va être très compliqué ici, on n'a pas la solution face au Mercedes. Franchement, c'est étonnant. C'est très, très étonnant d'admettre comme ça ses faiblesses. On doit trouver une solution quand on est Ferrari. C'est pas possible autrement.
Franchement, c'est pas admissible de la part de Vettel. Moi, je suis désolé, je vais encore lui taper un peu sur le casque, mais quand on est quatre fois champion du monde, qu'on est le leader affirmé, en tout cas en début de saison, d'une équipe comme Ferrari, on ne doit pas rendre les armes alors qu'on est au 9e Grand Prix. Ça n'est pas possible. C'est pas humain. Alors, je sais bien, au championnat, l'écart s'est creusé, 123 points, mais et encore une fois, il a manqué lui d'agressivité déjà depuis le début de la saison. Il a commis des erreurs personnelles. Alors que je rappelle, encore une fois, c'est pas pour en faire trop, mais Charles n'en a commis qu'une. C'était Azerbaïdjan quand il a détruit sa voiture.
Sur la performance pure, il s'est fait croquer par Charles Leclerc.
Mais régulièrement. Et ça, je pense que même Vettel l'avait pas anticipé à ce point-là.
Il avait déclaré quand même qu'il lui botterait rapidement les fesses.
Oui,
Charles Leclerc,
lui, il arrivait. De toute façon, il avait les dents qui rayaient le parquet, et c'est la seule solution. Donc, il a pris la mesure d'un quadruple champion du monde. Chez Ferrari, on avait déclaré au départ qu'on allait avantager Vettel, ce qu'on a fait d'ailleurs en demandant à Charles à deux reprises de se coucher et de le laisser passer. Bon, on a vu le résultat. Et puis, commis des erreurs stratégiques, je viens de le dire, encore en Autriche. Donc, faut que Ferrari arrête de faire des conneries.
On s'est tiré une balle dans le pied.
Clairement, et même plusieurs.
Et là, on est peut-être en train de comprendre, bon, un peu tard, je pense qu'on a déjà compris que la cartouche numéro 1, c'était Charles Leclerc.
Bien sûr, quand on voit évidemment.
Pas vraiment, puisqu'on vient de dire encore que Vettel était le pilote numéro 1 pas plus tard qu'il y a 25 minutes. Ouais. Visiblement non.
C'est de la méthode Coué.
Qui a dit ça, Lucas? J'ai raté la news.
Non, mais dans le board de Ferrari, Mattia Binotto a reconfirmé que Sébastien Vettel était le pilote numéro 1 et contenterait de faire le tout pour le tout et contenterait toutes les possibilités imaginables pour le garder, pour le conserver.
Ça, c'est de la politique. Il y a des bruits qui parlent de retraite même pour Sébastien Vettel.
Oui, bien sûr.
Sébastien Vettel, il a dit. En fonction du règlement 2021. Voilà.
C'est bien de se cacher derrière le règlement. Ouais. C'est bien de se cacher derrière le règlement.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui avec Sébastien Vettel chez Ferrari et avec Charles Leclerc qui vient d'arriver, c'est exactement la même situation qu'en 2014 quand Daniel Ricciardo est arrivé chez Red Bull. Il y a un nouveau pilote qui est arrivé donc aux côtés de Sébastien Vettel. Et rappelez-vous, en 2014, Ricciardo avait croqué Sébastien Vettel. Et là, c'est exactement la même chose. Mais moi, je le sens complètement désabusé, concerné par ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, c'est sûrement la raison pour laquelle il commet autant d'erreurs.
Il faut rappeler une chose. Hein, il faut avoir beaucoup de respect pour Sébastien. Sébastien Vettel,
bien sûr,
les quatre titres de champion du monde, c'est grand. Mais il était toujours lors de ces titres-là avec la meilleure voiture, clairement, avec un avantage technique et aux côtés de coéquipiers qui étaient quand même sur la fin de leur carrière, Marc Weber et David Coulthard, qui sont tous les deux partis dans d'autres catégories ensuite et qui étaient bien décevants par rapport à leurs coéquipiers respectifs dans ces catégories-là. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de confrontation directe en interne. Il avait clairement un avantage par rapport au reste du plateau, et c'est quelqu'un qui est presque injouable quand il est devant, quand il domine une course, il fait pas d'erreur, quand il a pas de pression, il est c'est une fusée. Mais dès qu'il y a un peu une confrontation directe, que ça soit avec Lewis Hamilton qui est dans une autre équipe ou avec son coéquipier, il a tendance à perdre pied mentalement. c'est pas ce qu'on attend d'un quadruple champion du monde. On le sent un peu friable et on le sent un peu pas très combatif en fait.
On en a 9 grands prix. Ouais. Ferrari n'a pas encore gagné.
Mais c'est incroyable et c'est pour ça qu'il voulait garder Raikkonen à ses côtés. Il a tout fait pour que Raikkonen reste et pour qu'on ne fasse pas rentrer Charles Leclerc. Et ben, il savait pourquoi. Hein. C'est qu'effectivement, il allait être dominé. Je crois que maintenant chez Ferrari, Mattia Binotto, que je respecte infiniment en tant que technicien, mais là, je pense qu'en termes de stratégie, il faut encore qu'il bosse un peu. Hein. Il y a du boulot là.
Très bien, c'est dit. Une petite respiration, une petite pause et Motors revient très vite sur RMC pour parler de ce Grand Prix de Silverstone. À tout de suite sur RMC.
RMC Motors. RMC 13h-14h Motors.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes effectivement dans Motors et on continue de parler du Grand Prix de Silverstone, 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Je vous rappelle que c'est Valtteri Bottas qui s'élancera en pole position devant Lewis Hamilton en deuxième ligne. On retrouve Charles Leclerc, le monégasque, devant Max Verstappen. Et on va parler en ce jour de fête nationale, en ce jour de 14 juillet, de nos pilotes tricolores.
RMC Motors, le French's Corner.
Et on démarre ce French's Corner avec bien sûr Pierre Gasly, le pilote Red Bull, qui a signé une formidable cinquième place à l'issue des qualifications hier. Il s'élancera donc depuis la troisième ligne. Pierre Gasly, messieurs, était en difficulté. Hein. C'est son écurie qui l'a mis un petit peu en porte-à-faux. Il a tout simplement déclaré que pour l'instant, c'était son week-end le plus solide. Vous êtes d'accord ?
Ah bah oui, clairement. Et on l'a vu d'ailleurs dès la deuxième séance d'essai libre, où il se place devant. Donc on a compris qu'il se passait quelque chose. Peut-être qu'on lui a donné enfin le matériel qui lui permet de s'exprimer. Pierre a dû progresser également à tous les niveaux. C'est un circuit qui lui convient, un circuit d'attaque. Je rappelle, un beau circuit de pilotage. Par parenthèse, le contrat a été reconduit jusqu'en 2023 avec Silverstone, qui est une très bonne nouvelle. On avait dit dans cette émission il y a une semaine, c'était vraiment terrible de voir Londres éventuellement.
On en parlera dans Radio Paddock avec Benoît tout à l'heure.
Donc je mélange un peu tout, mais ça fait rien. Donc on en revient à ta question. Bah oui, c'est génial pour Pierre de le voir à son niveau. Là, il termine à 3 dixièmes en qualif de Verstappen, qui est une référence absolue. Voilà, où on aimait le voir, à 2-3 dixièmes, c'est parfait.
Adrien, c'est compliqué pour un pilote d'avoir une épée de Damoclès comme ça, une obligation de résultat.
Je crois que voilà, il remet les points sur les i ce week-end pour l'instant. En tout cas, dans toutes les séances d'essais libres, il était devant Verstappen. Il a même été en tête de la première séance d'essais libres, meilleur temps absolu à ce moment-là. Ça prouve juste, en fait, il faut remettre les pendules à l'heure, ça prouve juste, si à Silverstone, il est capable de devancer tout le week-end Max Verstappen, bon, même s'il finit à 3 dixièmes en qualif, il n'a pas fait le tour parfait, il n'a pas eu d'aspiration, alors que Max Verstappen était derrière lui et a bénéficié de la sienne, ça peut faire la différence. Donc on est un peu déçu peut-être de la qualif, de la performance pure, parce que
c'est pas mal,
c'est 3 dixièmes, honnêtement, il a devancé Verstappen tout le week-end dans toutes les séances d'essais libres, et c'est lui qui avait 2-3 dixièmes d'avance, donc on peut être déçu peut-être de ça, mais bon,
c'est pour ça que Verstappen a eu un problème de turbo.
On sait que Verstappen est un très bon aussi, et sur un tour il est incroyable, mais ça veut bien dire que si sur un circuit comme Silverstone, où vraiment la qualité du pilote est très importante, on a des virages rapides, on a beaucoup de virages, on a du technique, on a de tout, c'est vraiment un juge de paix, c'est comme Spa-Francorchamps Silverstone. S'il est capable de devancer Verstappen là pendant les essais libres et être seulement juste derrière en qualif, ça veut tout simplement dire que quand il est loin sur les autres grands prix,
c'est pas le sien.
Il faut à un moment donné ne pas oublier que c'est un sport mécanique et qu'on est chez Red Bull, et voilà, et Pierre il fait son boulot avec les armes qu'il a, et quand il a les bonnes armes, il est dans le coup.
Et on va l'écouter justement, Pierre Gasly, il était au micro hier de Luca Vinoy après la séance de qualification, et pour lui les choses vont clairement dans le bon sens.
C'est sûr, je pense que, comme je l'ai dit, avec les changements qu'on a fait, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, et voilà, je prends plus de plaisir dans la voiture, j'arrive plus à faire ce que je veux, en dehors de la voiture aussi, et ouais, je pense que ça se ressent. C'est pas encore tout parfait, mais il y a eu beaucoup d'améliorations, donc il va falloir continuer comme ça.
Lucas, tu avais rencontré Pierre en début de saison, hein, Pierre qui à l'époque s'était pas mal plaint de ne pas avoir le même matériel que Max Verstappen. Est-ce qu'aujourd'hui les deux pilotes sont traités d'égal à égal ?
Oh, c'est difficile à dire. On n'est pas dans le secret des dieux. En tout cas, c'est ce qui est certain, c'est qu'il a reçu le package aérodynamique que Max Verstappen utilisait en Autriche. Donc, on a l'impression quand même que les deux parties se sont rééquilibrées, et on le voit. Pierre Gasly, en termes de performance, s'est considérablement rapproché de Max Verstappen, ce qui me fait dire qu'il dispose quasiment de la même monoplace que Max Verstappen. C'est le comportement de Pierre Gasly, qui est quand même beaucoup plus souriant, beaucoup plus jovial. C'est quelqu'un quelqu'un qui est très agréable et qui s'était fermé ces derniers week-ends de Grand Prix. Et là, on le retrouve un petit peu comme il est naturellement, et on le sent dans sa voix. Il a plus le sourire, il a envie de s'exprimer, il a envie de partager les choses. Et donc voilà, tout ça me fait dire qu'il est un peu mieux traité, en tout cas chez Red Bull, qu'il ne l'a été les dernières semaines. Et c'est tant mieux. Il est 3 dixièmes derrière Max Verstappen. Ce n'est pas une catastrophe. C'est quand même beaucoup moins pire que 8 dixièmes. Ou alors, on rappelle quand même qu'il a pris un tour par son coéquipier en Autriche, Max Verstappen, qui a été déclaré vainqueur. Donc c'était quand même terrible. C'est un véritable affront pour Pierre Gasly, voilà, qui est en train de rééquilibrer un petit peu les choses. Et on espère que ce sera le cas encore jusqu'à la trêve et pendant toute la deuxième partie de saison.
Et pour abonder dans le sens de Lucas, évidemment, Pierre vient de nous dire « J'arrive plus à faire ce que je veux en dehors de la voiture aussi ». Et je pense que ça se ressent. Voilà, il faut juste écouter les pilotes. En fait, il le dit. Il est mieux dans son équipe, il est mieux dans son écurie. On lui donne les moyens. Puis peut-être que chez Red Bull, on a enfin percuté sur le fait que le deuxième pilote, entre guillemets, il doit marquer des points. Et plus que n'en a marqué jusqu'à présent Pierre Gasly, 43. Si on veut se battre également, pourquoi pas, pour une place au championnat constructeur face à Ferrari, qui est pas si loin que ça, hein, puisque je rappelle que Ferrari, pour le moment, totalise 228 points, 169 pour Red Bull Honda. On n'a pas abandonné le fait, peut-être, de monter sur la deuxième marche du podium constructeur. Voilà. Donc, il faut que le deuxième pilote ait une voiture qui marche.
Adrien,
mais une petite anecdote par rapport à Pierre Gasly quand même, qui est muselé chez Red Bull. Il faut dire les choses comme elles le sont. À chaque fois qu'il parle à la presse française, qu'elle soit écrite en anglais, bien évidemment, il n'a pas le droit de parler à la presse écrite française en français. Il n'y a pas de point presse français organisé, alors que c'est le cas pour tous les autres pilotes du plateau, et notamment pour Max Verstappen, qui s'exprime en néerlandais avec les journalistes de presse écrite néerlandais. Voilà, Pierre Gasly, il est muselé. À chaque fois, vous avez son attaché de presse qui est à côté, qui écoute à chaque fois chaque mot et qui tend l'oreille, qui essaye de tout intercepter. Et encore une fois, jeudi, lorsqu'on lui a posé la question de qu'est-ce qui avait changé, ce sont des choses, on a essayé de débloquer des choses, et jamais aucun mot n'est posé sur ce qui a été changé. Franchement, c'est terrible. Quand on connaît Pierre Gasly, qui est quelqu'un qui a une parole plutôt libérée, et c'était le cas l'année dernière chez Toro Rosso, et quand on voit à quel point il ne peut rien dire chez Red Bull, c'est franchement impressionnant, et ça pose quelques questions.
C'est les sports mécaniques et c'est la Formule 1. Malheureusement,
il y a de la politique.
C'est comme ça. On est payé par un constructeur ou Red Bull.
Mais c'est comme ça nulle part ailleurs. Et
c'est comme ça partout, Lucas.
Non. Alors là, pour le coup, là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Pierre Gasly l'année dernière, il n'était pas comme ça. Charles Leclerc, il est pas comme ça. Quand ils veulent s'exprimer, il s'exprime. Pierre Gasly ne peut rien dire. Et c'est terrible parce que même lui cherche ses mots tellement il ne peut rien dire.
Tu crois qu'ils te disent un tiers de ce qui se passe en interne techniquement?
Pas un tiers. Mais le problème, c'est que lui, c'est même pas un dixième.
Ouais, mais c'est juste qu'il est dans une situation où il est première année chez Red Bull face à Max Verstappen. Mais c'est Red Bull qui a mis son argent sur Pierre Gasly tout au long de sa carrière. C'est quand même grâce à Red Bull qu'il est là aujourd'hui. Il est dans une situation compliquée parce qu'il peut pas non plus s'élever contre son payeur, contre les personnes qui lui ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Il y a un moment donné où voilà, c'est une situation très très compliquée, frustrante, parce que qu'on le fasse sciemment ou pas. Chez Red Bull, lui, ça le met en difficulté sportivement et par rapport à tout le monde qui regarde la Formule 1, parce que quand on n'est pas au courant de ce qui se passe en interne, bah, on regarde juste le résultat et on se dit que Pierre Gasly est moins rapide. Mais quand on connaît le sport auto, on se dit que c'est pas possible, qu'il y a des choses que ça va se mettre en place et que ça va aller pour Pierre, voilà.
Il y en a un autre qui est dans une situation très compliquée, pas pour les mêmes raisons, hein. C'est le deuxième français du plateau, c'est Romain Grosjean qui s'élancera, eh bien, en 14e position sur la grille tout à l'heure. Alors Romain, il repart de zéro, hein, ce week-end au sein d'une écurie AS totalement déboussolée. Le Français a repris ce week-end la voiture qu'il pilotait au début de saison à Melbourne. Ça a été catastrophique en essai libre. En qualif, il a réussi quand même à faire mieux que Kevin Magnussen, mais c'est quand même une saison très très compliquée pour Grosjean.
Bah, c'est une saison très difficile, une nouvelle saison très très difficile. L'an dernier, il y avait eu le déclic, bah, justement en Autriche, si je m'en rappelle bien. Là, on le voit partir en tête à queue à la sortie des stands, là aussi avec des pneus froids. Enfin bon, je suis désolé, hein, j'appuie où ça fait mal. Mais lui-même dit, on en a rigolé avec l'équipe. Bah oui, moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis marré, quoi. Je me suis dit, attends, là, il y a un vrai souci. Alors des erreurs, on en commet tous, hein. C'est pas pour l'appuyer sur la tête. Mais bon, il y a ça. Après, quand il fait un tour rapide, le premier, il part en tête à queue aussi. Tu me diras, il y en a d'autres. Mais bon, c'est George Russell. Vettel ou des rookies. C'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa tête, et il n'est pas bien dans sa tête, puisque l'équipe ne marche pas. Bon, il y a l'histoire tragicomique du sponsor, on va peut-être en parler tout à l'heure.
Rich Energy,
ouais. C'est clownesque, là. Moi, à mon avis, je mettrais un gros nez rouge sur l'avant de la voiture et des plumes derrière. Donc ça devient clownesque, là.
Non, mais t'as mis le doigt sur la vérité, comme souvent, Jean-Luc. Mais c'est juste mental du côté de Romain. Et c'est un mec doué, c'est un mec très rapide. C'est un mec qui a du car control. Et là, sortir de la voie des stands, se mettre en tête à queue, c'est juste qu'il y a un défaut de concentration.
C'est un gag.
Il y a un moment donné, il y a un défaut de concentration et qu'il n'a pas les pieds.
Après, je vais me faire l'avocat du diable, mais il a déclaré: nous n'avons pas une mauvaise voiture, mais nous n'arrivons pas à la comprendre. À mi-saison, ça fait désordre, ça, quand même.
C'est mais c'est encore les pneumatiques et cette fenêtre d'utilisation. Ils ont du mal.
Ils sont 20 pilotes à pas comprendre les pneumatiques.
C'est ça,
je rassure, depuis le début de la saison.
C'est juste qu'ils ont un niveau de performance moins bon que d'autres monoplaces, que le développement est un peu moins bon que les années précédentes. Il y a peut-être des soucis aussi de politique, de finance dans le team, et voilà, il y a plein d'autres soucis annexes qui font que tout n'est pas.
Il n'est pas bien dans sa tête.
Il n'est pas bien dans sa tête.
Voilà, il n'est pas bien dans sa tête, et on sait qu'il est sensible de ce côté-là, ce qui n'est pas une critique, encore une fois, c'est un constat. Bon, c'est tout, il l'a dit lui-même, donc voilà, il n'est pas placé. Bah, on parlait de Pierre Gasly il y a un instant, il n'est pas placé dans les conditions optimales pour donner son meilleur. Voilà.
Justement, Lucas, toi, tu es sur place, tu as pu le croiser, il est dans quel état d'esprit, et est-ce qu'on doit être inquiet pour Romain Grosjean, donc sur cette saison 2019 et pour l'avenir en Formule 1 de Romain Grosjean?
Oui, pour son avenir, oui, pour son avenir, oui, puisqu'on se rappelle qu'en Russie l'année dernière, AS avait annoncé la reconduction des contrats de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen, sauf que Kevin Magnussen, c'était une année plus une année en option, alors que Romain Grosjean, c'était seulement une année, donc il est sans contrat pour la saison 2020. Pour l'instant, il a marqué que deux petits points avec deux dixièmes places en Espagne et à Monaco, mais Romain Grosjean fait des erreurs, il y a pas de problème là-dessus. Je pense que c'est équivoque. Il a oublié de, quand il a désenclenché le pit limiter, donc à la fin de la sortie des stands, il a pas relâché l'accélérateur, donc forcément il est parti un petit peu en sucette. Mais ce qui est catastrophique, c'est AS en général. Ils ne comprennent pas la voiture, ils sont complètement perdus. Et rendez-vous compte, le désaveu que c'est lors de la dixième manche du championnat du monde de Formule 1 de reprendre le package aérodynamique et la voiture du premier Grand Prix. Mais c'est, vous êtes complètement perdu. C'est-à-dire, vous savez pas où vous mettez les pieds et vous n'avez aucune solution. Et Romain Grosjean le disait hier, oui, la voiture, elle est un peu moins rapide avec ce package aérodynamique, celui de l'Australie, qu'avec les nouvelles améliorations qu'ils ont apportées. Mais on préfère cette voiture-là parce que à l'intérieur de la monoplace, moi, en tout cas, je me sens mieux. Donc il y a un vrai problème. En plus de ça, il y a le souci du sponsor avec le PDG qui annonce sur Twitter qu'il lâche l'écurie pour manque de résultats. Et puis finalement, les actionnaires qui veulent virer ce PDG parce que l'accord n'avait pas été donné. Enfin bref, en tout cas, on marche un petit peu sur la tête chez AS. Et je suis vraiment pas sûr que ça fasse rigoler Jean AS, le propriétaire.
Ouais. Après, ils ouvrent un petit peu le parapluie. Hein. Ils ont déclaré: nous avons la plus petite équipe sur la grille. Il faut être indulgent avec nous. C'est pas forcément le cas, ouais, ça quand
non,
même.
Mais ça. Ce discours, tu peux pas le tenir en Formule 1. Enfin, c'est grotesque. C'est quand même le sommet du sport automobile. Bah, si on n'a pas sa place, on va ailleurs. On va jouer en Formule 2 ou on va jouer, je sais pas où. Mais on fait pas ça. Jean AS, justement, c'est quelqu'un qui a l'habitude de gagner sur les circuits américains. Hein, on le sait, notamment en NASCAR, etc. Donc, c'est une prestigieuse écurie. C'est presque l'équivalent de Penske là-bas ou d'Andretti ou de qui tu veux ou de Chip Ganassi. Donc là, quand tu deviens, bah, c'est pas ridicule, parce que non, on n'a pas le droit de dire ça, ils ne sont pas ridicules, mais tu peux pas plaider: ah bah, on est des tout petits, faut nous excuser. Et qu'est-ce qu'on dit à la place de Williams ou de Racing Point? Non, c'est pas une excuse recevable. Ouais.
Très bien.
Surtout que ce n'est pas vrai, parce qu'ils ont ils reçoivent beaucoup d'améliorations de la part de Ferrari,
bah,
et
évidemment,
ils bénéficient de la boîte de vitesse et de l'ensemble du train arrière de la Scuderia Ferrari. Donc on ne peut pas dire ça, mais honnêtement, il va falloir surveiller ça de très très près. Mais si les résultats continuent à être aussi mauvais qu'ils le sont, Jean AS pourrait prendre une décision radicale, parce que je suis pas sûr que ça le fasse rire de faire
moi
juste devant Williams, lui qui est habitué quand même à beaucoup de succès.
Et tu sais, beaucoup d'argent, parce que je suis pas sûr qu'on
ait c'est son argent personnel chez AS, hein. Et je ris déjà en pensant à la série Netflix qu'on va voir à la fin de la saison.
Joker
Steiner. Joker, allez.
Joker Jean-Luc Roy. Allez, une petite respiration, Motor se revient dans un instant. Il est 13h45, vous êtes sur RMC.
RMC Motors. RMC 13h-14h Motors.
Motor qui entre dans la dernière ligne droite à fond de sixième avec Jean-Luc Roy, Adrien Tambay, Lucas Vinoy et avec Benoît Boutron qui nous rejoint pour Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Salut Benoît!
Salut les pollueurs, salut à tous.
Salut Benoît.
Alors on débarque sur
Radio Paddock. No limit.
Benoît, si tu le veux,
arrête. Juste, notre ami Adrien Tambay est très peu pollueur parce qu'il a un scooter électrique.
Ouais.
Eh oui.
Moi, je marche à pied, mais ça vous intéresse.
Voilà. Monsieur Plenet est à pied. Jean-Luc, passe ton
moi,
tour.
C'est plus ne pas. Je vous dis tout. Non, je vous dis tout.
Ne nous dis rien. Radio Paddock, Benoît, donc, on démarre avec quelques infos. F1.
IndyCar.
IndyCar, comme tu veux, c'est toi le patron.
Actu IndyCar, rapidement.
Avec Simon Page,
F1. Après, effectivement, c'est la grille de Toronto, effectivement, avec Simon Pagenaud qui est en pole. C'est pour ça, Christophe, que je l'ai mis en tête.
Un tu Français
qui est en pole à Toronto devant Scott Dixon et Félix Rosenquist. C'est quand même une belle perf pour Simon Pagenaud, puisque sur les trois dernières années, ça fait deux pôles à Toronto. C'est le seul parcours IndyCar qui est hors des États-Unis. C'est un circuit en ville. En plus, Toronto, c'est spectaculaire à regarder. C'est la course sur à suivre à partir de 21h30. Et l'autre image de ce week-end, on l'a regardé avant d'entrer dans l'émission, c'est l'accrochage tendu entre Sébastien Bourdais et Takuma Sato. Et les deux se sont un peu touchés en qualification. Du coup, il y a explication à l'arrivée dans les stands. Takuma Sato est allé à la voiture de Sébastien Bourdais. Accrochage viril entre les deux. Ils ont dû être séparés. C'est assez rare de voir ça, mais ça prouve la tension qu'il y a eu, messieurs, dans cette qualif d'IndyCar entre le Français et le Japonais.
Ça rappelle Panis Tambay un peu, ça, non?
Pardon
ça... Non, c'est ce qu'on glisse dans l'oreille.
Moi j'ai rien fait.
Joker. Donc non mais sa vie en IndyCar de toute façon. Bah oui, sa vie.
Mais c'est bien un peu des pilotes.
Bah oui, bah écoute, il se passe des trucs là au moins. On va revenir sur la pole de Simon Pagenaud parce que c'est vraiment génial en fait. Après sa victoire aux 500 miles, hein, il l'avait d'ailleurs admis, hein, il avait tellement d'obligations, il était pas trop dans le truc pour l'épreuve qui suivait à Détroit notamment, il avait pas été là. Et là bah je lui ai envoyé un petit message quand j'ai vu que ça marchait avant même la pole. Il m'a répondu oui, la voiture marche bien, j'aime bien l'euphémisme, tu vois. Bah oui, elle marche bien, t'as raison. Oui. Et puis il s'étendait le volant dans le bon sens, hein, Simon. Ouais. Alors Seb Bourdais était très très bien aussi en essai libre, il est un poil moins bien là, il est 8e sur la grille, mais ça va être mouvementé dans les rues de Toronto comme tu
son
le
ami Takuma Sato par 10e, hein. On peut se retrouver rapidement.
Ça peut être chaud.
Surtout quand on connaît Takuma Sato et les freinages qu'il arrive à faire un peu kamikaze, ça va être sympa.
Sato vainqueur des 500 miles aussi, on le rappelle, il y a quelques années.
Et ça s'est calmé après, ils ont dit non, je suis cool, voilà.
Ils se connaissent bien, ils ont roulé ensemble en Formule 1, je crois.
Oui, absolument, ils se connaissent très bien.
Tout au long de leur carrière, ils sont de la même génération.
Ce qui est bien, c'est qu'on va pas leur mettre des points, leur enlever des points sur le permis ou leur mettre des secondes de pénalité. Bah voilà, ça y est, tu l'as entendu.
Très bien, Benoît.
Ça, c'est fait.
Après l'IndyCar, on va parler de
la Formule E.
La Formule E, la spécialité de Jean-Luc.
Sa
discipline préférée, en tous les cas.
Exactement. Et c'est la finale du championnat, d'ailleurs, ce week-end. À New York, avec
hier,
un Français.
Hier, ça a été un petit carnage quand même.
Oui,
la course. Et Jean-Luc, toi qui n'aimes pas les pénalités, il n'y en a pas eu beaucoup hier. Hein,
c'est bien.
Pénalités. Je crois même qu'il y a eu on a protesté.
Mais dis-nous ce que tu aimes, Jean-Luc, ça va aller plus vite.
Mais j'aime le sport mécanique. Comme ça, c'est vachement ça. En fait, j'aime tout. Tu vois, j'aime la F1, j'aime l'IndyCar, j'aime la moto, c'est pas génial ça. J'aime l'endurance, enfin bon.
Non, mais tu aimes la Formule E, parce qu'on a un Français qui va peut-être être champion du monde. C'est Jean-Éric Vergne.
Attention, c'est pas un championnat du monde. Permets-moi de te reprendre de voler. Non, voilà. Non, c'est une série internationale.
Voilà.
Non, mais je
tu arrives un petit peu vite dans le virage.
Je le fais exprès.
Non, mais en tout cas, ça serait bien pour lui. Il aurait pu déjà.
Non, ça c'est bien. J'ai toujours dit les pilotes, respect, il n'y a rien à dire. Bon, maintenant, il y a des courses de tondeuse à gazon en Angleterre, hein, mais je vous assure que c'est vrai.
Voilà. Donc c'est Sébastien Bumi qui a gagné hier.
T'as raison.
C'est bien parti pour Vergne, a priori, devrait être champion puisque ses principaux adversaires pour le titre sont à 22, 25 et 26 points. Alors il faudra faire attention parce que le vainqueur prend 25 points, mais il y a également 3 points pour la pole et 1 point pour le meilleur tour en course.
Et le fan boost, il a combien de points?
Non, ça c'est à Mario Kart.
Ah, ça y est. Mais ça existe, hein. C'est très bien.
Non, mais il n'y a pas de points.
Il n'y a pas de points pour ça.
On suivra ça évidemment, c'est deuxième course à 16h. Donc cet après-midi à New York, c'est la dernière de l'année pour la Formule E.
Voilà. Très bien, on termine ce Radio Paddock Benoît avec quelques news, quelques infos Formule 1 avec Silverstone confirmé jusqu'en 2023.
C'était l'inquiétude dans Motors la semaine dernière, c'est confirmé effectivement. Silverstone sera bien au calendrier qualifier jusqu'au moins en 2023. Une bonne nouvelle, effectivement, tu le disais, Jean-Luc, il y a eu un peu de pression, parce qu'on rappelle qu'il y a un fantasme de la part des organisateurs de faire un Grand Prix de Formule 1 dans le Grand Londres, à l'est de Londres. Donc forcément, ça rendrait compliqué.
On peut, mais on ne doit pas éliminer pour autant Silverstone.
Le berceau des sports mécaniques et de la Formule 1.
C'est le circuit le plus emprunté.
Et les pilotes l'ont dit, à commencer par Hamilton.
Inauguré en 48.
Exactement.
C'est quand même un des circuits où on prend le plus de plaisir quand on est dans une voiture.
Le fameux enchaînement, là.
Beckett, Magos.
C'est génial.
Cops, c'est des virages.
Ça rentre à 300 quand même. Mais après, avec l'appui aéro, ça descend à 285.
Il faut à la fois un gros cœur et des facultés d'anticipation, de rythme. C'est à la fois technique et un peu bourrin. Donc c'est top.
Lucas, toi qui es sur place, comment cette nouvelle a été accueillie à Silverstone ?
Bah très bien, forcément, on était ravis. En fait, à la base, il y avait un contrat jusqu'en 2026. Le problème, c'est que Bernie Ecclestone avait savamment négocié pour que Silverstone paye 5% de plus chaque année pour figurer au calendrier de la Formule 1. C'était plus possible pour Silverstone. Voilà. Donc c'était plus possible, ils ont cassé le contrat et ils ont renégocié un autre contrat jusqu'en 2024 et donc le Grand Prix va figurer au calendrier au moins jusqu'en 2024, ce qui ravit bien évidemment les fans britanniques.
Une baisse de 5% par an, Lucas. Non, je rigole.
Un rabais, un petit rabais.
Voilà. Non, mais c'est vrai que la question qu'on se posait, c'est qu'on pouvait pas faire de Grand Prix. En tout cas, ça met du plomb dans l'aile au projet de Londres. Tu peux pas faire de Grand Prix à moins de 200
bornes. Mais c'est du show, là. Je crois qu'il faut pas mélanger les choses.
Il y a beaucoup de fantasmes.
Ouais. C'est du show. Là aussi, on peut imaginer n'importe quoi.
Il y avait à un moment donné le Nürburgring et Hockenheim. C'est pas très loin l'un de l'autre. Hein, les deux circuits, il y avait le Grand Prix d'Europe et le Grand Prix d'Allemagne. Donc, on peut très bien imaginer.
Grand Prix d'Europe.
Garder Silverstone et faire un Grand Prix.
À Manicourt et le Castellet la même année.
Voilà, c'est ça.
Oh là, on en est loin.
Pas demain, en tout cas.
Bon, une nouvelle qui va ravir Jean-Luc Roy.
Oula, j'ai peur.
On va peut-être avoir un retour des ravitaillements essence en Grand Prix de Formule 1. Crac, c'est une idée de Jean Todt, en plus le président de la FIA. Il a soumis cette idée, en fait, c'est vrai qu'on est en plein accord Concorde, ça a été repoussé en octobre. Il y aura le nouveau règlement qui va tomber donc d'ici le mois d'octobre. Et Jean Todt s'est exprimé, il a dit pourquoi pas le retour des ravitaillements en essence. Ça a été abandonné en 2010, on le rappelle. Deux raisons, les coûts déjà, et ensuite la sécurité. C'est vrai que c'est toujours particulier de remettre de l'essence dans une Formule 1. L'idée de départ, c'est d'alléger les Formule 1 et de relancer un peu de stratégie, en fait, de remettre un peu de suspense.
Et aussi d'arrêter l'économie justement d'essence.
On leur a remis
une allocation de carburant, mais quand même, on est obligé de faire toute la course avec une quantité d'essence. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de la gestion.
Bonne ou mauvaise idée, Jean-Luc ?
Alors, avec tout le respect que j'ai effectivement pour Jean Todt, qui est un fin connaisseur, un des meilleurs connaisseurs des sports mécaniques et pour son parcours, je suis un peu surpris par la suggestion, parce qu'effectivement, abandonné en 2010, comme tu l'as souligné, pour deux raisons qui sont évidentes. Bon, le danger, ça se maîtrise, c'est vrai que... Et les machines qui étaient utilisées coûtaient très cher, il en fallait de rechange, donc il faut les transporter ces machines, donc c'est très complexe. Alors maintenant, tu vas me dire, ça existe en IndyCar avec des raisons différentes et des systèmes différents, d'ailleurs parfois un peu aléatoires, il faut le dire aussi, donc je suis un peu surpris de ça, et puis c'est remettre artificiellement de l'intérêt et on va dire un suspense un peu artificiel pour moi, alors qu'effectivement, pour alléger les voitures, bah oui, mais on leur a mis au moins 80 ou 100 kilos avec tous les dispositifs de récupération d'énergie.
Après,
tu me vois venir.
Stratégique.
Oui,
moi je trouve ça très bien, personnellement.
Écoute, oui, mais c'est un peu faire du neuf avec du vieux, si vous me permettez, puisque ça existe.
Oui, mais si le vieux c'était bien, franchement. Il y a un moment.
Tu dis ça pour Jean-Luc, pardon.
Et on l'avait piqué. Ils sont sympas. Bon, je parie pas finalement. Ils avaient piqué ça à l'IndyCar, pour être clair.
Bon. Oui, mais franchement, en plus, la question, le problème qu'il y avait les dernières années de cette réglementation, c'était que il fallait. La séance de qualification s'effectuait avec la quantité d'essence avec laquelle vous partiez pendant la course. Là, ce serait même pas le cas. Ce serait une séance de qualification à vide et après, on met la quantité d'essence qu'on veut au départ. Moi, je trouve ça très bien. On attend qu'ils signent.
Il y a les contres aussi qui disent qu'après, on pourrait avoir des dépassements dans les stands. Donc, c'est pas non plus fantastique.
Si vous voulez mon avis, ça se fera pas pour des raisons financières. Vous verrez, parce que les écuries vont dire, mais attends, ils vont dire ça va nous coûter 3 millions ou 5 millions par an. Bon, on verra.
L'heure tourne, messieurs. Il est malheureusement déjà l'heure de se quitter, Benoît.
On l'a pas vu.
Merci beaucoup pour ce Radio Paddock. Jean-Luc, Adrien, Lucas. Benoît.